L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Rencontres Lusophones, boa tarde à todos. Soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et entièrement consacré à la lusophonie. Hélas, l'actualité nous rattrape, je suis seul ce soir. Manu est un cas contact, donc il est à l'isolement. Hélène est partie au soleil du midi. Nous allons donc enregistrer nos prochaines émissions le temps que le Covid nous lâche un peu. Donc, Hélène a eu le temps d'enregistrer sa petite chronique. Elle évoquera les 110 ans de la proclamation de la République au Portugal, bien sûr. Et ensuite, dans la chronique culturelle, je vous parle aujourd'hui d'un film très connu, Aldeia da Rupa Branca, et à la suite, une évocation de la vie de Beatriz Costa, vedette de ce film. Ne perdons pas plus de temps, Bora!
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Ma petite chronique de ce soir ne sera pas un billet d'humeur, mais juste le rappel historique d'un événement hyper important pour le Portugal qui, cette semaine, commémorait les 110 ans de la proclamation de sa République. Une proclamation qui fut le résultat de la révolution du 5 octobre 1910, un événement fondamental de l'histoire de la nation portugaise qui a mis fin à une monarchie constitutionnelle décadente et qui a ensuite donné lieu à l'installation d'un régime républicain encore en vigueur aujourd'hui. Alors, l'instauration de la toute nouvelle République portugaise a évidemment donné lieu à la naissance de nouveaux symboles nationaux tels que le drapeau, la simplification de l'orthographe ou la création d'une nouvelle monnaie, l'escudo, qui en 96 a cédé sa place à l'euro. Mais revenons au tout début. La République a donc été établie le 5 octobre 1910. Mais après 10 mois de gouvernement provisoire, c'est la Constitution de 1911 qui a réellement marqué le début de cette première République, dont le régime a été caractérisé par une forte instabilité politique et financière, aggravée par la participation du Portugal à la Première Guerre mondiale. Cette crise et l'incapacité des gouvernements successifs ont par conséquent conduit à un coup d'État militaire qui, en 1926, a interrompu la démocratie. Et ce fut le début d'une dictature qui a duré près d'un demi-siècle. En 1933, c'est donc une nouvelle constitution qui a donné naissance à l'Estado Novo, un régime politique plus connu sous le nom de salazarisme, et dans lequel une grande partie des libertés individuelles nées avec la révolution du 5 octobre ont été abolies. Le Portugal entre alors dans sa deuxième république. Les 48 ans de dictature qui suivront se termineront, comme nous le savons tous, en 1974 avec la révolution du 25 avril qui cédera la place à la troisième république portugaise et à l'adoption d'une nouvelle constitution proclamée et adoptée en 1976. Une constitution qui garantit et perpétue par la même occasion les libertés individuelles de la révolution du 5 octobre 1910. La boucle est bouclée. La démocratie portugaise est aujourd'hui un peu plus tranquille, heureusement. Dans la constitution portugaise, comme dans la française d'ailleurs, le pouvoir exécutif est assuré par le président de la République et surtout par le premier ministre qui, au Portugal, a un peu plus de pouvoir qu'en France. Je vous rappelle que le premier ministre portugais actuel est António Costa et qu'il en est à son deuxième mandat. Il avait été élu une première fois en 2015, en ayant réussi l'exploit de réunir autour de lui une véritable alliance de gauche, qui avait d'ailleurs fait des jaloux dans bien des démocraties européennes. Une alliance tout à fait inédite qui reposait d'une part sur le parti Bloco de Esquerda, l'extrême gauche portugaise, dans la mouvance de Podemos en Espagne ou France Insoumise en France, pour faire court, et d'autre part sur les partis socialistes et communistes. Cet accord, qui avait fait l'objet d'âpres négociations, avait eu pour objectif de permettre aux socialistes d'obtenir une majorité au Parlement dans certains domaines bien précis. Les deux partis d'extrême-gauche avaient en l'occurrence exigé, entre autres choses, des garanties sur l'augmentation globale des revenus des Portugais et la fin de l'austérité qui avait prévalu de 2011 à 2014, lorsque le Portugal, au bord de la faillite, avait été placé sous tutelle internationale. D'ailleurs, rappelez-vous, le modèle d'alliance des gauches avait reçu le nom désuet de « géringonce », qui veut dire « attelage mal ficelé, menaçant de rompre à tout moment ». Et il faut dire qu'à l'époque, assez peu de gens y croyaient. Et pourtant, le bidule, comme on peut dire, le bidule, a quand même fonctionné pendant 4 ans. Pour les élections suivantes, il semblait donc logique de reconduire l'assemblage. Malheureusement, il y a tout juste un an, en 2019, António Costa a été réélu, mais sa célèbre alliance de gauche avait disparu. Il manquait 8 députés aux socialistes pour obtenir la majorité absolue. Et puis le fameux bloc de gauche, même s'il était d'accord pour reconduire l'accord, avait émis quelques petites conditions. Quant au Parti communiste, le refus a été un non catégorique. Alors aujourd'hui, António Costa n'a donc d'autre choix que celui de naviguer à vue, en tentant de trouver des soutiens dont le pays a grand besoin, surtout en ce moment, alors que se profile à l'horizon une dégradation de l'économie due en grande partie à l'épidémie du coronavirus. Voici donc un mandat qui s'annonce pour António Costa beaucoup plus houleux que le précédent. C'est donc, on peut le dire, le début d'un nouveau cycle politique pour le Portugal. Ah, et petit truc rigolo. Le 5 octobre, le Portugal célèbre le premier jour de la République fondée en 1910, mais pas que. Et non. Il célèbre également le 5 octobre 1143, le jour où son premier roi, Dom Afonso Henriques, a signé un traité de paix avec le roi castillan Afonso VII de León, un traité de paix qui affirmait l'indépendance définitive du Portugal. C'était le célèbre traité de Zamora. Eh oui, c'est bien des Portugais tout ça. D'un côté, ils fêtent le début de leur royauté et de l'autre, le début de la République.
Mostra bem do que és capaz. Fica ao lado do bom primo, família que muito estimo. És catita, és bom rapaz. Deixa os talaças de fora, já chegou a nossa hora. Olha o povo revoltado, lá vai, arrebenta a bomba. Chamuscada a croa tomba, a procissão vai no adro. João Franco fez-se forte, enganou a própria morte no dia 1 de fevereiro. A espada o povo não cala, pois era para ele a bala daquele tiro certeiro. Despontou a nova aurora, João Franco vai-te embora, leva a desgraça contigo. Deixa a liberdade livre, dá-me tudo o que eu não tive. Ouve bem o que eu te digo. Dá-me tudo o que eu não tive. Ouve bem o que eu te digo. deixa a liberdade livre. Dá-me tudo o que eu não tive, ouve bem o que eu te digo.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Aldeia da Rupa Branca est un film portugais de 1939 réalisé par Chianca de Garcia. La musique est de Raul Portela, Raul Ferrao et les chansons sont de James Silva. Je veux vous parler d'un film connu de tous, classique parmi les classiques, avec beaucoup de musique et de chansons, dont une, connue de tous les Portugais qui est tombée dans le patrimoine traditionnel. C'est un film extraordinairement vivant, la scène d'ouverture donne le ton. Pour nous mettre dans l'ambiance, écoutons ce tube.
Sete fronhas e um lençol, três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol.
Três corpetes, um avental, sete fronhas e um lençol, três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol.
Ai, rio, não te queixes, sai, o sabão não mata. Ai, até lava os peixes, ai, põe-nos cor de prata. Olha ali um enxoval, vê lá bem nas ursas brancas, parece um monte de um pombal, vê lá bem de pombas brancas. Sete fronhas e um lençol, três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol.
Três corpetes, um avental, sete fronhas e um lençol, três camisas de um enxoval que a freguesa deu ao rol.
Ai, rio, não te queixes, sai, o sabão não mata. Ai, até lava os peixes, sai, põe-nos cor de prata. Um lençol de pano cru, vê lá bem tão lavadinho. Dormimos nele eu e tu, vê lá bem ficou de linho.
Oui, les paroles en français, ça donne « Eau froide de la rivière, eau froide que le soleil a réchauffé. Vieux village, souvenez-vous du linge blanc qu'on a étendu. Trois corsages, un tablier, sept et deux rayés, un drap. Trois chemises, du trousseau, de la mariée, ta-ta-ta. » Ça vous donne une idée des paroles, à peu près, quoi. Mais avec tout cela, on en a oublié le générique. C'est parti!
Thank you.
Le contraste entre la campagne et la ville, les vieilles querelles de village, les coutumes d'autrefois y sont fidèlement transcrits avec beaucoup d'humour et quelques belles scènes à l'appui. Boire la course de charrette, la baston générale avec tous les détails croustillants. On va faire un aparté là. Le film rejoint la vie réelle car tous les villages avoisinants de Lisbonne lavaient le linge et apportaient des fruits et légumes à la ville. Les femmes allaient au lavoir ou à la rivière, laver le linge avec du savon dans l'eau. C'est ce qui provoquait les sillons gris et argentés imitant des poissons frétillants, comme dans les paroles de la chanson. Elle faisait sécher le linge sur l'herbe ou sur de grandes pierres. Et après, elle rapportait le linge au village en tas, posé sur le rodilla, anneau de tissu rembourré, au sommet de leur tête. Les lavandières étaient généralement des filles de la région de Saloya, qui venaient à Lisbonne chaque semaine chez leurs clients, de classe sociale plus élevée et plus aisée, pour chercher du linge. Ils venaient du nord de la ville, principalement de Canessas, Lousa, Lourdes, Malvera, Odivelas, Terrugem, entre autres. Elles lavaient les vêtements dans les rivières, dans les ruisseaux ou dans les buanderies publiques et lavoirs, et les transportaient en paquets qu'ils portaient sur la tête. Elles chargeaient aussi les ânes ou des charrettes tirées par des mulets, qui ont ensuite été remplacées par des camions à caisse ouverte, où elles voyageaient en groupe assises. Elles ont été immortalisées par des chansons telles que les Lavandières du Portugal, entre autres. Écoutons Maria da Luz dans un fado qu'elle chante à Lisbonne dans un cabaret.
A melancia como a boca da mulher nas tardes de romaria, rapazes é que é beber. Chega a gente ao fim do dia sem dar pelo anoitecer. É para esquecer, é para aquecer que assim é beber. Ai, tu me vês a vida inteira com este copo na mão. Quem tem de sofrer mais vale beber até poder ter o sangue de uma vida cá dentro do coração. Oh, tristeza, vai-te embora que a vida passa a correr. Se não te alegres agora, quando é que o has de fazer? Bota vinho a toda hora, canta, canta se puder. É para esquecer, é para esquecer que assim é beber. Ai, tu me vês a vida inteira com este copo na mão. Quem tem de sofrer mais vale beber até poder ter o sangue do mundo inteiro cá dentro do coração. Se cai um freguês que tem mau vinho para não estragar a pescada, é dizer-lhe com jeitinho: bebe lá mais meia lata, vá lá mais um pastelinho. É para esquecer, é para aquecer que assim é beber. Ai, tu me vês a vida inteira com este copo na mão. Quem tem de sofrer mais vale beber até poder ter o sangue de uma vida dentro.
Car il faut savoir que jusqu'au milieu du 19e siècle, Lisbonne était une ville sale, touchée par de nombreuses épidémies. De riches citoyens payaient des aguadeiros, des porteurs d'eau, pour ramener l'eau à la maison. Les eaux de Canessas étaient alors très prisées pour leur qualité. Lisbonne était un grand marché très demandeur d'eau. C'est ce qui a motivé l'apparition des fontaines, qui vendaient de l'eau et qui constituent un repère et un mode de vie caractéristique de la commune. L'eau de Canessas était vendue par charrette, elle était transportée dans des bocaux d'argile à Lisbonne et ses environs, ainsi que des paquets de linge et de légumes et fruits. Les cruches dans lesquelles les porteurs d'eau transportaient l'eau étaient en argile, de forme typique. La base était longue et fine, afin d'être insérée dans les trous des ponts en bois fabriqués à cet effet, empêchant ainsi les cruches de se briser lors du transport en charrette vers Lisbonne. Celles qui lavaient et remplissaient les cruches étaient les remplisseuses d'eau. D'autres femmes habiles étaient également chargées de sceller les pots avec du papier collant. Au début, les cruches avaient un bouchon de chiffon, remplacé ensuite par un bouchon de liège, puis scellé, et la taxe était versée au conseil paroissial. Certains aguaideros avaient leur propre seau qu'ils mettaient sur leur cruche, un seau qui non seulement les identifiait, mais certifiait également l'origine de l'eau. La distribution quotidienne d'eau à travers les quartiers de la capitale était commercialisée par les fournisseurs, chaque aire de distribution étant préalablement définie parmi les distributeurs, ils se transmettaient la concession de parents à enfants. Et c'est ainsi qu'on a pu voir l'aguadeiro piché sur l'épaule, distribuant l'eau douce dans les rues de Lisbonne. Cliché. Fin de l'aparté. Voici donc l'histoire. Gracinda, une jeune lavandière, vit avec son parrain, l'oncle Jacinto. Ensemble, ils dirigent une entreprise familiale de lingerie, faisant le nettoyage du linge des habitants de Lisbonne dans leur petit village de Canessas. Malheureusement, l'affaire ne marche pas bien, mais cela va changer. Quand Gracinda décide d'aller à Lisbonne pour essayer de convaincre Chico, le fils de l'oncle Jacinto, de qui elle est amoureuse, pour venir au village pour donner une nouvelle vie à l'affaire. On va faire un aparté là, on peut se poser la question de la consanguinité puisqu'elle est la cousine de Chico. Ça doit être une licence artistique du scénario, lol. Écoutons comment Chico est accueilli et comment l'annonce de ce retour se propage dans le village et alentour. On ne parle pas ici de téléphone arabe, mais bien de téléphone portugais.
Chico! Oh, Maria, chegou o Chico!
O quê? Já chegou o Chico? Ô, filho, filho, já chegou o Chico! Oh, já chegou o Chico! Ô, oh, João! Já chegou o Chico!
São os outros, irmão. Por ti. As mulheres são danadas.
Ah, chegou o Chico. Pois então eu conheço lá este guardanapo. Olha, põe-se a porta.
Chega para ele, bom pai. Olha só o que é para aprender.
Chico se promène au clair de lune sur une jolie musique. Écoutons-le. Le village se prépare pour les festivités annuelles. Écoutons une répétition des jeunes avec Gracinda.
As princesas da cidade, oh,
são bonequinhas de armário. Para, toca lá. As princesas da cidade, oh, são bonequinhas de armário. Só a nossa qualidade. Se o noivo é de Canessas e a noiva é da Malta.
é de canessas e a noiva é da malveira. Já podem pedir messas à saloiada inteira, mas se não for com essas, vá lá de outra maneira. A noiva de canessas e o noivo da malveira.
A noiva é de canessas, canessa. A noiva é da malveira.
Malveira.
Un autre moment fort, la course de charrette. Trois chevaux blancs, trois chevaux noirs, ce n'est pas Ben-Hur, mais ça a du panache. À noter qu'à la différence de Ben-Hur, ce sont les chevaux blancs qui ont un accident avec Gracinda. Ils tombent dans le contrebas de la route. La musique est superbe et suit bien l'action. Écoutons. Les festivités commencent. Musique! Un conflit d'affaires survient entre l'oncle Jacinto et son rival, la veuve Quiteria, quand chacun d'entre eux invite un orchestre différent à jouer en même temps pendant la fête et les danses. Il en résulte une immense cacophonie et une bagarre générale mémorable. le calme revenu, tout le village participe à un grand pique-nique. Écoutons Maria Dalouge.
Minha mãe cantava quando a veste me consolava. Depois falei, depois falei, depois cantei. Como quem sente um segredo, represado na garganta, fri e no que vi, compreendi. E a mulher quando canta, num dia de sol ardente, passou pela minha rua. Olhamos um para o outro e eu senti que ia ser sua. Ainda hesitei, mas o que eu sei é cantar. Como quem canta sentindo que a própria alma é que canta. E a fulgurar, a suplicar o seu olhar. Tinha mesmo uma labarela que me queimava a garganta. Numa noite fria e escura, não voltou à nossa casa. Pus os olhos no meu filho, sentindo-me em brasa. E só então, meu coração, nessa traição, entendeu a dor profunda que há na alma de quem canta. Se deixou, me abandonou, fez-me o que eu sou. Mas bonita de saudade, que enroquece uma garganta. Agonia de saudade, que enroquece uma garganta.
Gracinda se lamente sur son amour. Tout est bien qui finit bien. L'entreprise repart de plus belle avec les amoureux Gracinda et Chico. Encore un bon morceau avec cœur.
era Cristina, Cristina. Venham cantar cantiga, venham voltar a ir à barriga.
Você, André, Jardim, Cristina, João, a porta se vira.
Et voici la finale de ce très bon film. Écoutons, écoutons. Béatrice Costa, née le 14 décembre 1907 à Mafra, était une actrice portugaise, l'actrice la plus connue de l'âge d'or du cinéma portugais. Elle était l'auteur de plusieurs livres. La fille à la frange s'appelait Béatrice de Conceição et avait un grand cœur. Grande référence du cinéma et du théâtre portugais, elle a laissé ses mémoires écrites. Actrice de théâtre et de cinéma, Béatrice Costa est devenue une icône de la culture portugaise populaire. Parmi ses films se distinguent A Cassau de Lisboa, en 1933, où elle joue face à Vasco Santana et Antonio Silva, et à Aldeia da Rupa Branca, 1939, avec José Amaro, ce que vous venez d'écouter. Originaire d'une famille très pauvre, elle était analphabète lorsqu'elle a commencé sa carrière artistique, et c'est de sa propre initiative qu'elle a commencé ses études. Elle a appris à lire à 13 ans, seule. Elle a débuté en 1923 en tant que choriste dans le magazine Thé et Toast, traduction, avec une lettre de présentation de l'actrice Emma de Oliveira, qui l'a recommandée à l'homme d'affaires Antonio de Macedo. Peu à peu, elle gagna en notoriété et lors d'une tournée au Brésil en 1924, elle étonna le public lors du spectacle organisé par le magazine Fado Corrido, où elle chanta la chanson de Mademoiselle Kidd. En 1927, elle commença à porter la frange qui l'a rendue célèbre. La même année, elle est à l'affiche au cinéma dans un film muet réalisé par Rino Lupo, Le Diable à Lisbonne. Suivirent les films Fatima Mele Agrosa, 1928, où elle dansa un tango avec un alors jeune Manuel de Oliveira, très connu. Lisbonne Chronique Anecdotique, 1930, de Letao de Barros et Manu de Nos, d'Alberto Cavalcanti, en 1931. Sa popularité s'est envolée lorsqu'elle a participé aux côtés de Vasco Santana au film La Chanson de Lisbonne, 1933, où elle jouait la jeune couturière naïve Alice, et elle a popularisé le thème musical, L'aiguille et le dé à coudre, devenu lui aussi un classique. À suivre le film Le trèfle à quatre feuilles en 36 de Chianca de Garcia et une revue qui a fait l'histoire, Art et Bureau, 1936, qui est restée 2 ans à l'affiche. Retour au cinéma 3 ans plus tard dans le rôle le plus emblématique, la lavandière Gracinda dans Aldeia da Rupa Branca 1939, nous venons d'en parler. Écoutons encore un tube, L'aiguille et le dé du film Cansao de Lisboa.
Vem cá, mulher, tão bem e tão fina, vem dar um estilo lábio manhas, sou esperta e ladina e mais retorcida que as de ter ao chão. Ai, chega, 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 oh, minha agulha, afasta, 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 afasta o meu pilar. Brancheira, não plejas, trafulha, oh, nela vem perder o amendo.
Paizinha, não lhe disse que esta do teu roubo não andava. É o paizinho que tem um vozeirão do amor.
Ai, chega, 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 ó minha agulha, afasta, 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 afasta o meu final. Brejeira, não sejas trafulha, oh não, essa mais bela fez que a agulha em Portugal.
Vê, paizinho, é o teu sujeito, vê.
Mas é que eu sujeito vejo, mas não quero que demora.
Bem, sei que não me amas, não me trata e que me desprezas só ter-te pobre. E salto não chores, bem sei que és de lata, também eu passajo na fralda do pobre. Vai, chega, 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 oh, minha agulha, afasta, 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 oh, meu didar. Brancheira, não seja trapulha, oh, bela, vem perder o lamento do amor. Ai, chega, 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 oh, minha agulha, afasta, 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 afasta o meu final. Brancheira, não deixes trapulha, oh, não, essa mais bela fez na
Elle est retournée au Brésil et s'est mariée en 1947, mais elle s'est séparée deux ans plus tard. Entre 1939 et 1949, elle a bénéficié d'une belle notoriété et d'une extraordinaire popularité. En grande partie grâce à la chanson Tiro Liro Liro. Écoutons donc cette chanson très connue elle aussi. Retournée au Parc Mayer en 1949 et y a continué à travailler jusqu'en 60, année où elle a quitté la scène pour collaborer avec le magazine et Belle la blague, encore une traduction approchante, hein, en 1960. Elle a publié quelques livres comme « Sans pape en langue », 75, « Quand les vaches causent » et « Eram Santanas » et « Non seulement » en 78 et « Femmes sans frontières » en 81. Tout ça, ce sont des traductions, donc à peu près. Elle a été sculptrice, travaillant à la maison, mais elle a choisi le métier de brodeuse. Après sa réapparition dans un spectacle de la Maison de la Presse qui s'est tenu au Colisée, elle a été systématiquement sollicitée par les médias et s'est étonnée des réactions disproportionnées du public de lecteurs à l'égard de cet autre aspect de sa vie, écrire. En 77 est édité par Amy Valentine de Carvalho, un album qui compile plusieurs de ses succès musicaux et qui en 96 sera réédité sous le titre « Grande Marge de Lisbonne » dans la collection Caravella de la même maison d'édition. Voici la Grande Marge de Lisbonne.
Na boca e amores no coração.
Ai, vai Lisboa, com saia cor do mar, e cada vai ver o noivo que com ela vai casar. Ai, vai Lisboa, com a tinta na boca e amor no coração.
Bairro velho, bairro novo, gente boa, em casa na cantiguinhas na boca e amores no coração.
Malgré les nombreuses propositions pour retourner sur scène par Vasco Morgado, elle a préféré rester loin d'eux parce qu'elle considérait le théâtre de revue comme décadent. Nombreuses furent aussi les invitations à des programmes de télévision par Joachim Letria et de fait, elle participera en tant que membre du jury au concours Célévère da Casa, présenté par Fialio Gouveia et qui visait à lancer des jeunes dans le monde du spectacle. Figurément et aimée dans tout le pays, elle vécut à l'hôtel Tivoli à Lisbonne jusqu'à la fin de ses jours. Amusante et souriante, elle a toujours gardé son air irrévérencieux et son humour sain. Mafra lui a rendu hommage en donnant son nom au théâtre municipal Béatrice Costa. Les films où elle apparaît en vedette sont constamment affichés sur RTP Mémoire avec un énorme succès d'audience. À partir de 60, elle commence à voyager à travers le monde en assistant à des festivals de théâtre d'Occident en Orient. Elle a connu des personnalités comme Salvador Dali, Pablo Picasso, Sophia Loren, Greta Garbo, Edith Piaf, entre autres. Elle mourut le 15 avril 1996 à 88 ans, avec la sérénité que les dieux devaient toujours accorder à ceux qui répandirent leur joie autour d'eux. Elle est enterrée dans le cimetière de Malveira. Beatriz Costa est un nom qui restera vivant éternellement, surtout pour les Portugais.
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Rencontre lusophone se termine pour aujourd'hui. Au revoir et à samedi prochain. Un gros bisou à Hélène pour qu'elle nous revienne en forme et à Manu en septaine. Merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité. On revient samedi prochain.
La mise en ligne du podcast, quant à elle, n'a pas changé. Elle sera disponible dans quelques petites minutes sur la page de Radio Résonance ainsi que sur notre page Facebook Rencontre Lusophone, au pluriel. D'ici là, continuez à écouter Radio Résonance et sortez couverts et masqués. À tes mâches.
Il vaut mourir.